Vous écoutez VOA Afrique, il est 15h à Washington DC, 19h en temps universel. Rosine Mounenzelo dans ce studio pour vous présenter ce bulletin d'information. Bonsoir et bienvenue. Le président américain Joe Biden abandonne la course à la présidence et a déclaré dimanche qu'il soutenait la vice-présidente Kamala Harris comme candidate démocrate à l'élection de 2024. Monsieur Biden a déclaré qu'il s'adresserait à la nation plus tard dans la semaine pour donner plus de détails sur sa décision. Aujourd'hui, je veux offrir mon soutien total et mon appui à Kamala pour qu'elle soit la candidate de notre parti cette année, a déclaré M. Biden sur X. Les manifestations antigouvernementales qui secouent le Kenya depuis plus d'un mois risquent de détruire le pays. C'est ce qu'a déclaré dimanche le président William Ruto, assurant promettre que cela va s'arrêter. Les rassemblements qui touchent le Kenya depuis le 13 juin ont viré au chaos, faisant, selon une organisation officielle de défense des droits humains, au moins 50 personnes tuées. Justice doit être rendue avant toute discussion, a de son côté indiqué dimanche le chef de l'opposition kényane Raila Odinga. En Ouganda, les personnes qui prévoient de participer mardi à une manifestation interdite par la police mais maintenue par les organisateurs contre la corruption devant le Parlement ougandais jouent avec le feu. C'est ce qu'a averti samedi le président Yoweri Museveni. Notre point de départ dans la lutte contre la corruption et le Parlement, et c'est ce mardi, et la manifestation aura lieu indépendamment de ce que dit la police, a de son côté affirmé une figure du mouvement, Shamim Nambassa, interne en médecine. Au Sénégal, plus de 250 migrants irréguliers venus de différents pays d'Afrique de l'Ouest, dont plusieurs femmes, ont été interceptés vendredi et samedi, selon la marine, quelques jours après un naufrage meurtrier au large de la Mauritanie voisine d'une embarcation partie des côtes sénégalaises. Plus tôt, la DIRPA avait fait état de l'interception vendredi de plus de 202 migrants irréguliers à bord d'une pirogue. Le dirigeant de facto du Soudan, le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan, a reçu dimanche l'ambassadeur d'Iran et a envoyé le sien à Téhéran, marquant ainsi le rapprochement entre les deux pays après 8 ans de rupture. Le Soudan a rompu ses relations avec l'Iran en 2016 en solidarité avec l'Arabie Saoudite après l'attaque de son ambassade à Téhéran suite à l'exécution d'un éminent religieux chiite du royaume. Il s'était engagé à reprendre leurs relations diplomatiques en octobre. Des frappes israéliennes ont fait au moins une trentaine de morts ce week-end dans la bande de Gaza, assiégée et dévastée par plus de 9 mois d'une guerre qui s'étend à une partie de la région, au Yémen et au Liban. Au Yémen, le port stratégique de Hodeïda a ainsi été visé samedi par des frappes aériennes israéliennes qui ont fait 3 morts et plus de 80 blessés, ont affirmé dimanche les rebelles Houthis. 2 jours après une attaque de drone ayant fait un mort à Tel Aviv menée par ces insurgés soutenus par l'Iran, les rebelles yéménites ont menacé dimanche Israël d'une réponse énorme à ces frappes. L'Iran a également condamné dimanche ces frappes, mettant en garde contre une escalade des tensions dans la région. Dans ce contexte explosif, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit rencontrer mardi à Washington le président américain Joe Biden avant un discours le lendemain devant le Congrès pour tenter de resserrer les liens avec les États-Unis. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé dimanche soir avoir donné son accord à l'envoi d'une délégation jeudi pour négocier un accord sur la libération des otages à Gaza. Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant estime de son côté que les conditions ont été créées et qu'une occasion limitée dans le temps se présente pour rétablir un cadre en vue de la libération des otages, selon un communiqué de son bureau.
Tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bon Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Manila qui sera avec vous au micro, Georges et Léonard Sagno sur la mise en onde. Ce soir, nous explorons les normes culturelles et religieuses. Ces règles et pratiques façonnent nos vies et nos sociétés, définissant nos identités et nos interactions. Comment renforcer la compréhension mutuelle, promouvoir le respect entre les différentes communautés? Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Frida Darmani, journaliste à Tunis et familière du monde des religions. Frida, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans le dialogue des religions.
Merci.
Au Mali, Mohamed Abdelhari El Khalil, spécialiste des questions sociales, religieuses et sécuritaires du Sahel. Bonsoir. Mohamed.
Oui, bonsoir Madame Feda et bonsoir Monsieur Eric.
Bienvenue également bonsoir. Dans le dialogue des religions. Alors Mohamed, je vais commencer avec vous. Voudriez-vous définir ce que sont les normes culturelles et religieuses dans le contexte de votre tradition religieuse?
Alors bonsoir Monsieur Eric, de m'avoir accordé l'opportunité de m'exprimer sur vraiment une question aussi très très importante et une question aujourd'hui qui est une question d'actualité parce que ce sont des questions, ce qu'on appelle les normes religieuses ou les normes culturelles, leur connaissance approfondie par les populations, par les habitants, permettent vraiment d'avoir une vie sociétale paisible, tranquille et très respectueuse. Et c'est pour cela qu'il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'une norme religieuse ou qu'est-ce qu'une culture ou qu'est-ce que la tradition. Quand nous nous penchons un peu par rapport à ça, en islam, les normes religieuses sont tellement nombreuses qu'on ne pourra pas citer en une heure de temps et en finir. Mais il en existe beaucoup et qui aussi souvent prennent leur source dans les religions anciennes telles que la religion d'Ibrahim alayhi salam, la religion de Moïse et la religion de Jésus.
Comment ces normes se sont-elles développées historiquement dans vos traditions respectives?
Alors, une question très importante parce qu'aujourd'hui, en islam, il faudra comprendre le sens du mot tradition. Parce que le mot tradition est porteur d'ambiguïté en réalité. Il signifie en effet tout ce qui, dans une culture, peut être transmis à une autre communauté, à une autre personne, à un groupe d'individus. Et alors la civilisation arabo-musulmane a été au carrefour de différentes cultures. Et quand vous regardez la communauté à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Bilal Boun Rabah qui était un Africain. Il y avait aussi Suleiman al-Farisi qui était un Perse. Et donc, il n'existe pas une tradition musulmane exacte. De plus, ce mot a un sens très précis dans la culture musulmane. Quand on parle de tradition en islam, il s'agit de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il s'agit des pratiques prophétiques, tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mettait en valeur. Donc les dits et les faits, les gestes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons immédiats, rapportés d'abord oralement, puis réunis dans un corpus. Et ce qu'on appelle en islam le hadith ou les hadiths. Donc en ce sens, il faut bien partir du Coran lui-même qui est constitutif, en principe et avec pas mal de réserves. Et de l'ensemble de la tradition musulmane, des valeurs et des idéaux, donc des mœurs et des expériences sociales et spirituelles des habitants de leur culture arabo-musulmane ont été développées. Quand nous regardons par exemple la fête d'Ashura aujourd'hui, c'est la fête d'Ashura ici, au sein des communautés musulmanes, par exemple au Mali ici, aujourd'hui nous fêtons Ashura. Mais il y a une communauté, celle de la communauté musulmane, qui traduit cette fête-là par un jeûne. Cette journée, nous gérons cette journée, mais il y a une communauté musulmane aussi qui est une communauté qu'on appelle la communauté chiite qui est vraiment faite, mais tout en frappant leur corps d'une main jusqu'à ce que le sang coule. Voilà un peu ces différentes cultures traditionnelles qui sont au sein de la communauté, qui sont au sein de la religion islamique.
Frida, voudriez-vous partager un exemple de normes culturelles spécifiques à votre communauté chrétienne ou musulmane qui influence votre vie quotidienne?
Alors, je voudrais juste dire sur le fond que nous vivons, nous partageons dans le même contexte en Tunisie que le contexte dont parle Si Mohamed, à part que nous avons peut-être un peu plus d'influence parce que nous sommes vraiment la position géographique de la Tunisie à la croisée des chemins du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et donc nous avons subi cette influence. Donc dans les faits du quotidien, c'est très très simple. Nous avons d'abord dans notre religion, l'islam, une religion, un calendrier. Ce calendrier lunaire se décline, mais en même temps dans la journée, il y a des déclinaisons qui sont rythmées par les prières et par les différents temps de dévotion qui sont effectués. Et ça, c'est un tempo. Ce tempo-là, il est la trame de notre quotidien. Donc ça, on s'en rend même plus compte. C'est dans nos habitudes. C'est-à-dire que personne aujourd'hui ne s'étonne s'il sort par hasard à l'heure de la prière de trouver que les rues sont vides le vendredi, par exemple. Et il y a aussi ce qu'on appelle des atavismes, c'est-à-dire des habitudes qui viennent en fait d'anciennes coutumes qui ont été vraiment introduites dans ou assimilées au quotidien, qui sont comme par exemple, juste avant de manger, de dire Bismillah, c'est-à-dire au nom de Dieu, parce que cette nourriture, pour nous, c'est toujours un don de Dieu. Donc, ou comment on dit Bismillah aussi en entrant quelque part, juste pour avoir ce qu'on appelle la sotra, c'est-à-dire la protection, c'est-à-dire que pour ne pas déranger ceux chez lesquels on va et pour que nous ne soyons pas non plus offensés par quelque chose qui pourrait perturber notre regard ou notre approche. Donc, tout, c'est une question de rythme, tout simplement. C'est comme aussi, personne ne penserait ni à boire ni à manger en public durant Ramadan. Et d'ailleurs, nos concitoyens qui sont catholiques ou juifs respectent exactement cette coutume. Je connais beaucoup de chrétiens ici en Tunisie qui, durant Ramadan, évitent de montrer qu'ils ou même qu'ils font le jeûne eux-mêmes. C'est, alors que eux-mêmes, le jeûne pour dans la chrétienté, c'est à la période de Pâques, etc. C'est-à-dire que voilà, ce sont des choses qui permettent d'avoir un peu des choses un peu plus familières, c'est des choses du vécu du quotidien. Et il y a aussi une chose très très simple, c'est toutes les salutations. Quand on entend les salutations que se font les Arabes chaque fois qu'ils se rencontrent, ça dure parfois 5-10 minutes, mais ce ne sont pas juste bonjour, comment allez-vous, c'est que des paroles bienveillantes, des souhaits de bonne vie, de bonne santé, de bonheur, etc. Et ça fait du bien. Voilà, tout simplement. C'est ça notre. C'est en fait très très simple comme mode de vie.
Oui, vous venez donc de souligner certains rituels ou pratiques religieuses qui illustrent les normes de votre foi. Comment ces normes religieuses influencent-elles, par exemple, vos décisions personnelles et professionnelles, Frida ?
Je sais que moi, à titre personnel, dans ma vie privée, j'ai gardé une habitude depuis mon enfance de ne pas jeter le pain. Jamais. Et c'est une tradition qui vient de ma grand-mère qui disait toujours quand on était à table, c'est la nourriture, c'est l'arme, c'est ce qui donne vie. C'est-à-dire que cette nourriture nous a été donnée par Dieu, mais parce que ça nous permet de rester en vie. Donc quand on avait l'air, elle nous parlait de ça comme si c'était un cadeau. Et qu'un cadeau qu'on devait préserver, donc jusqu'à aujourd'hui. Et chez nous, d'ailleurs, le pain est un aliment sacré. D'ailleurs, quand on a eu une pénurie de pain socialement ici, on a eu vraiment beaucoup de difficultés pour avoir un peu de cohésion sociale. Ça a été très difficile à calmer. Et il y a aussi le fait que, par exemple, quand quelqu'un va quand on fait du pain, ceux qui font du pain à la maison, la tradition, c'est que quand arrive un étranger ou quelqu'un qui n'est pas de la famille, ben on pain. On ne va pas vous offrir ni du chocolat, ni des gâteaux. Non, non, on vous offrira du pain. Donc ça signifie toute la symbolique qu'a justement l'épi de blé jusqu'à le transformer en pain. Bien entendu, ça n'empêche pas aujourd'hui le consumérisme et les abus, mais le pain reste central dans nos cuisines, dans le partage, et c'est quelque part aussi ce qu'on appelle pour certains nutritionnistes ou certains sociologues la base de la nourriture du pauvre. Voilà.
Mohamed, quels sont selon vous des points communs entre les normes culturelles et religieuses chrétiennes et musulmanes ?
Tout d'abord, il y a la sœur Faïda par rapport à la problématique de la nourriture. Effectivement, c'est une véritable. Le reste de nourriture est une valeur vraiment qui a toujours été enseignée dans nos sociétés musulmanes. Par exemple, quand nous écoutons les grands savants à un moment donné, quand ils nous avaient. Vous voyez pourquoi Moïse a fait tant d'années avant de vaincre Pharaon, parce que Pharaon avait trois qualités très très puissantes en lui. Et Moïse avait le respect de sa maman, le respect de l'étranger, mais avait également le respect de la nourriture. Par exemple, quand Pharaon finissait de manger, les nourritures qui étaient partées, les ramassaient pour lui. Donc voilà un peu une bénédiction que la nourriture porte en elle-même. Pour revenir à votre question, l'islam est la mère des religions. La seule différence, c'est-à-dire culturelle et traditionnelle qui peut être commune, disons, entre l'islam et le chrétien, la spiritualité, cette quête perpétuelle de la part de Dieu, c'est-à-dire le recueillement dans les églises ou le recueillement des mosquées, les prières nocturnes, ou comme venait de citer tout à l'heure ma sœur, c'est-à-dire le jeûne pendant le paquet. Donc voilà un peu des valeurs qui nous unissent beaucoup. Même l'enterrement, il y a juste quelques rituels qui nous différencient, mais en réalité, et mais dans certaines communautés religieuses, on n'enterre pas les corps sont brûlés. Et mais en islam, le corps est enterré, et au christianisme également, le corps est enterré. Voilà un peu des valeurs qui nous unissent beaucoup.
Alors, voudriez-vous décrire une situation où une norme religieuse a guidé vos interactions sociales ou vos choix éthiques, Mohamed?
Ah oui, bien sûr, parce que moi, à l'époque, quand j'étais étudiant en Mauritanie, puis également au Maroc, j'ai vu des gens qui vraiment, comme on l'appelle, de couleurs différentes, et qui essaient de se réunir dans la mosquée, on prie ensemble, la rupture, les gens venaient manger ensemble, et je me suis dit, mais c'est très beau. Mais dans tout ça, qu'est-ce que j'ai vu ce qu'on appelle la tolérance religieuse. On était avec des chrétiens dans le campus, et on était aussi avec des juifs qui étaient venus de l'Israël pour étudier au Maroc. Mais je vous dis, monsieur Eric, il n'y avait aucune différence entre nous. Le dimanche, le chrétien partait à l'église. Le musulman, le vendredi, partait à la mosquée. On venait, on jouait au football ensemble. Et voilà un peu cette tolérance religieuse qui m'a beaucoup marqué, qui m'a d'ailleurs poussé à créer ce qu'on appelle le réseau RADEM, le réseau d'action de déradicalisation au Mali, qui est un réseau qui se penche sur la question de la tolérance religieuse, la lutte contre l'extrémisme violent religieux, où chaque année on organise un symposium qu'on appelle le symposium du Sahel pour l'éradication de l'extrême violent religieux et du terrorisme. Donc ça permet de réunir toutes les confessions religieuses, musulmanes, chrétiennes, etc., autour des différentes thématiques qui traitent des questions, le rôle de la femme, la tolérance religieuse, le respect mutuel entre les différents responsables religieux, parce que aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, surtout au Sahel et au Maghreb arabe, le seul point sensible, c'est la question des conflits religieux. Nous devons tout faire pour éviter les conflits religieux, parce que les conflits religieux, aucune communauté n'a intérêt. C'est le point de basculement de toute une grande nation. Et voilà un peu cette pratique religieuse qui est la tolérance religieuse que j'ai hérité ça de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait pris il s'était accrédité auprès d'un juif, et le jour où le juif était venu réclamer sa dette, il a agressé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a agressé, mais Aboubakar Siddiq était là-bas, Aboubakar Siddiq directement l'a étranglé au fond du mur, mais il dit, mais comment? Le prophète dit, laisse-le. Il dit, mais non, il t'a offensé. Le prophète dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non. Il est venu réclamer son droit. Et on a calculé le droit du juif. Le prophète a demandé de payer le droit du juif et également d'ajouter quelques kilogrammes. Pourquoi? C'est pour réparer le tort, le fait qu'Aboubakar Siddiq l'a agressé parce qu'il avait agressé le prophète. Regardez un peu cette beauté religieuse qui est là, cette tolérance.
Comment faites-vous face aux malentendus ou aux stéréotypes liés à vos normes religieuses, Mohamed, rapidement?
Vous savez, les stéréotypes, quand nous regardons l'Occident, le fait que les cercles portent le voile, le fait que certains fanatiques également musulmans, il faut le souligner, qui aujourd'hui portent la burqa intégrale pour vraiment leur faire des inconnus vis-à-vis du monde, et aller chercher à leurs enfants à l'école où les gardiens ne peuvent même pas savoir est-ce que c'est la maman de l'enfant, mais c'est des questionnements qu'on doit se poser. Est-ce qu'aujourd'hui l'islam doit se faire ridiculiser jusqu'à ce point? La question centrale, c'est quoi? C'est cette question de savoir quelle est, c'est-à-dire comment jouer ou comment contrer ces stéréotypes-là. Parce qu'aujourd'hui, tous ces stéréotypes que vous voyez, que nous rencontrons dans la société, c'est dû à l'ignorance exacte de Dieu, la connaissance réelle de Dieu, la quête de la spiritualité, c'est-à-dire être dans la spiritualité continuelle, sont des valeurs ou des principes qui nous permettent vraiment de lutter contre ces stéréotypes et ces malentendus. Mais également le conseil, le musulman ne doit pas être violent.
Nous sommes dans le dialogue des religions, nous parlons des normes culturelles et religieuses. Mohamed Abdelhari Al-Khalil et Frida Darmani sont mes invités dans cette édition. Alors Frida, comment votre communauté religieuse prend-elle la tolérance envers les normes des autres cultures et religions?
Tout simplement parce que déjà, comme je le disais tout à l'heure, on est à la croisée des chemins. Donc on a absorbé différents mouvements de civilisation, on a été nous-mêmes occupés, territoires occupés par différentes civilisations, on a eu les Romains, on a eu les Vandales, on a eu les Chrétiens, on a eu finalement les Français avec le protectorat tout récemment, mais on a eu avant aussi les Turcs et bien sûr les grandes invasions arabes. Parce qu'à l'origine, sur ce territoire, comme dans d'autres territoires du Maghreb, nous n'étions que berbères. La tolérance, notre tolérance, c'est qu'on a tous vécu, alors je ne dis pas ensemble, parce qu'en fait, le vivre ensemble, on l'a raté à un moment donné. Il a été brisé par certaines guerres, comme le vivre ensemble avec la communauté juive a été brisé par la guerre des six jours. On s'est côtoyé, mais côtoyé depuis tellement longtemps qu'on se connaît tous. Les trois religions vivaient ensemble sur le même territoire, avec chacune leur quartier, mais avec quand même beaucoup de choses en commun. Quand ça sentait bon chez un voisin et qu'on du plat était il était au courant qu'il y avait, je sais pas moi, par exemple, un plat de couscous pour les voisins. C'est-à-dire, c'était ça, on était dans le partage. Et ce partage nous a appris chacun à nous connaître. C'est comme moi, quand j'ai grandi avec des amis de mes parents qui étaient siciliens, ben j'ai appris tous les rituels du catholicisme à travers eux, sans le faire exprès, sans vouloir devenir catholique non plus. J'ai été à la messe de Noël, j'ai appris beaucoup de choses, sans forcément remettre en question l'islam ni quoi que ce soit de ce qui était dans mon éducation. Et ça fait partie de la tolérance. C'est-à-dire que quand je suis partie faire mes études à l'étranger, pour moi, je n'étais pas étrangère à ce que je voyais. Et par contre, j'ai réalisé que moi, j'étais perçue comme étrangère. Pourtant, je porte pas le voile, mais le fait d'avoir un nom qui vient d'ailleurs, ça faisait très bizarre. Donc, ce qui fait que, effectivement, cette tolérance, elle n'est pas toujours dans les deux sens, mais il faut beaucoup d'attention, d'écoute et de patience, parce que je me dis que ces gens-là qui sont intolérants n'ont pas le même savoir que nous. Nous, on est beaucoup plus riches. On a côtoyé des tas de personnes différentes, on s'est frotté à différentes cultures, on a discuté, on a lu, etc. On s'est parlé plusieurs langues qu'on comprend. C'est ça la richesse. Comme par exemple en Tunisie, un exemple de tolérance sur l'île de Djerba, la communauté juive existe depuis des siècles, depuis pratiquement la chute, la deuxième chute du temple de Salomon. Et la communauté musulmane, jusque dans les années 60, on a trouvé un document il n'y a pas très très longtemps, quand il s'agissait d'enfants de la communauté juive qui devaient aller sortir de Djerba pour aller continuer leurs études dans un lycée à Sfax, qui était donc un lycée public, un pensionnat, il y avait le directeur de l'école qui demandait au grand rabbin qu'est-ce qu'il devait faire pour préserver les habitudes, les coutumes de ces jeunes juifs qui venaient à Sfax, en disant comment je peux faire respecter le Shabbat alors qu'on a des cours durant le Shabbat. Enfin, ils se sont arrangés ensemble entre personnes de bonne volonté. C'est ça la base de la tolérance. C'est être à l'écoute et être de bonne volonté. Voilà, je pense que ça résume tout. Il y a aussi une autre chose très mignonne que je voulais raconter, parce que c'est très spécifique à la Tunisie. Et comme quoi nous avons aussi adopté les habitudes des autres religions. Le 15 août, les pêcheurs de Trapani qui étaient venus s'installer là près de Tunis à la Goulette, avaient une habitude. Il y avait le bateau, la barque qui sortait avec une statue de la Madone. Et on disait que lorsque la Madone sortait, la mer changeait à partir du 15 août et il fallait plus aller se baigner. Les pêcheurs pouvaient toujours aller en mer, mais pour les estivants, c'était terminé. Et bien jusqu'à aujourd'hui, quand arrive le 15 août, quelqu'un qui va se baigner après, on lui dit « mais la Madone est sortie ». C'est dans notre vocable, c'est-à-dire c'est fini, on a adopté la chose. Donc voilà, c'est cette pratique, en fait, cette façon de transformer tous les textes écrits, etc., d'en sortir la substantifique morale pour en faire des pratiques au quotidien qui finissent par être par nous faire, quoi, et tisser nos relations.
Oui. Voilà. Merci de ces exemples où des fidèles de différentes religions ont collaboré ou se sont soutenus malgré leurs différences. Brièvement, Frida, quels sont les principaux défis que vous rencontrez en essayant de pratiquer votre norme ou vos normes religieuses dans une société multiculturelle?
L'ignorance de l'autre. Quand on voit, c'est pas du tout un jugement de valeur, mais je me rends compte qu'avec ce côté peut-être internet ou trop de technologie ou cet isolationnisme dans lequel on est de plus en plus, même au niveau dans les familles, je veux dire entre générations, etc., fait qu'il y a moins de diffusion du savoir alors qu'on a accès à beaucoup de choses, etc. Et cette connaissance, surtout en matière de religion, cette connaissance des autres qui doit être affinée, c'est-à-dire que comme le disait Si Mohamed tout à l'heure, pour l'islam, il n'y a pas que le Coran, il y a le hadith, la sunna, la tradition, etc. Il y a ce qu'on fait dans chaque pays, la façon dont ça a été traduit dans nos lois, et beaucoup de choses qui sont très importantes. Et ça fait partie de, ça quand même concerne quelques milliards de citoyens sur cette terre. Et l'indifférence dans laquelle on voit un peu en Occident la peine qu'on se donne, le peu de peine qu'on se donne pour connaître les autres religions, c'est vraiment dommage.
Mohamed, vous avez parlé des conflits et religieux. Il faut donc améliorer le dialogue et la compréhension mutuelle entre différentes communautés religieuses. Mais quelles initiatives locales ou communautaires peuvent renforcer le respect et la coopération entre les différentes religions?
C'est une question très très pertinente. C'est que nous devons comprendre que le Seigneur lui-même qui a créé les cieux et la terre est le seul juge. Ni vous, ni moi, personne ne doit se proclamer juge pour juger les autres en fonction de leur foi. Je vous ai créé parmi vous des croyants et des mécréants. Donc Allah, il y a des gens qui ont pris d'autres chemins. Donc toi, en tant qu'être humain, il faut laisser les gens vivre leur foi. Mais plus précisément, au Mali, il ne peut pas avoir de conflit religieux en réalité. Pourquoi? Parce que vous trouvez qu'un jeune chrétien, sa maman peut être musulmane ou sa sœur est mariée dans une famille musulmane. Donc voilà un peu, le brassage interreligieux est un élément très très important, même s'il y a des questionnements par rapport à l'islam, où l'islam dit, voilà, l'homme chrétien ne peut pas marier la femme musulmane, mais c'est la femme musulmane, l'homme musulman qui peut marier une femme chrétienne. Voilà un peu ces questions qu'il faut essayer de bien expliquer aux jeunes aujourd'hui, mais également la rencontre entre les différentes communautés. D'aller saluer et de saluer. Moi, je le fais, ma porte fait face à une famille chrétienne. Chaque fête, je vais leur dire un bonjour. Et leurs enfants, je leur donne des cadeaux que je peux. C'est comme ça, c'est naturel, c'est obligatoire. C'est très important. C'est des choses qui permettent vraiment de s'aimer ce qu'on appelle la paix même du cœur, qui est le bonheur entre les gens dans une société. Mais il y a des exemples précis dans la société. Par exemple, moi, j'ai dit à travers ce qu'est la question communautaire, à travers les organisations religieuses ou non religieuses. Ces organisations, par exemple, le RADEM n'est pas une organisation religieuse, mais nous organisons des rencontres, c'est-à-dire que des journées d'engagement communautaire pour l'abandon de l'extrémisme religieux. C'est une journée que nous organisons dans plusieurs communes où les gens viennent de différentes religions, on vient en cause, on échange entre nous. Et au Mali, il n'y a pas de problème entre les musulmans et les chrétiens. Le chrétien vit sa foi comme il veut, le musulman aussi vit sa foi comme il veut.
Frida, je vais finir avec vous. Quels sont les mécanismes ou plateformes existants qui favorisent le dialogue interreligieux et interculturel chez vous? Quelles leçons en avez-vous tirées?
Alors, il y avait sous le régime politique précédent du président Ben Ali, même une chaire pour le dialogue interreligieux, et qui était assez active au niveau avec des intellectuels, des écrivains, des philosophes, des sociologues, etc. Et on essayait de justement étudier, analyser, comprendre l'impact de cette société qui était en changement par rapport à justement les religions, surtout les religions monothéistes, bien entendu, puisque nous avons de toute façon toutes le même socle, le même credo. Le reste, ce sont des détails que chacune a apporté dans le contexte dans lequel il y a eu sa genèse, dans lequel elle est née. Aujourd'hui, ça n'existe plus, bien qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent parler de vie des communautés, etc. Alors que les communautés actuellement sont réduites, la communauté chrétienne est très faible, et c'est souvent en nombre. C'est souvent d'ailleurs des gens qui sont ou d'anciens, puisque les gens partent. Mais c'est comment nous, on va vivre par rapport aux autres communautés qui sont le monde, parce que nous avons affaire quand même à des partenaires en Occident qui sont justement ou chrétiens ou juifs ou d'autres, hein, peu importe. Et donc tout ça, c'est comment on va traduire, nous, un peu de bienveillance, un peu d'écoute, etc. Et ça va être à travers l'application toute simple de l'islam, qui est vraiment une religion d'écoute et de bienveillance.
Nous arrivons au terme de notre édition de ce dialogue des religions sur les normes culturelles et religieuses. Un dialogue ouvert et respectueux est essentiel pour construire un monde où la diversité est non seulement acceptée, mais aussi célébrée. Merci à Frida Darmani, journaliste à Tunis et familière du monde des religions. Merci également à Mohamed Abdelhari Al-Khalil, qui se trouve au Mali, spécialiste des questions sociales, religieuses et sécuritaires du Sahel. Eric Manila-Kidra était avec nous au micro. Georges et Léonard Sagnot a assuré la production et la réalisation. Merci également à tous nos auditeurs. Je vous souhaite une agréable soirée et à la prochaine. Au revoir.